carrefour de l'info sur Arabelle.
Je vous le disais il y a quelques instants dans les titres, à Bruxelles, Caritas International a installé hier une pompe à essence symbolique sur la place Poulart. Pour rappeler une réalité souvent oubliée, derrière le coût économique des guerres, il y a aussi et surtout un coût humain. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Sébastien Deschamps, coordinateur humanitaire chez Caritas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Caritas International donc a installé cette fameuse pompe à essence symbolique sur la place Poulart. Première question, si vous le voulez bien, Sébastien Deschamps, pourquoi avoir choisi, disons, cette image relativement forte?
Mais ce qu'on a voulu faire, essayer de faire, c'est installer une sorte de rupture par rapport à un narratif qui, depuis le début de ce conflit, insiste tout le temps sur ses conséquences économiques. Alors, c'est vrai, il y a des réelles conséquences économiques, et notre pompe à essence, c'était une pompe à essence bien réelle. Il n'y avait pas d'essence, mais c'est vraiment la vraie machine qui est là. Donc oui, ce compteur-là qui augmente, le prix qui augmente pour tout le monde, et pas seulement de l'essence, hein, ça a des conséquences sur les prix d'autres matières premières. Mais ce que nous avons voulu rappeler, c'est que derrière ces chiffres, derrière ce conflit, en fait, au centre de tout cela, il y a des personnes, il y a un coût humain à ces conflits. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant, pas seulement le coût, mais aussi la solidarité, mais l'impact que ça a sur des millions de personnes, pas seulement sur des chiffres.
Voilà, vous dites, je cite, « Nous payons tous le prix de la guerre, certains le paient de leur vie ». Pourquoi c'est, disons, très important de rappeler cette réalité aujourd'hui que certains parfois oublient?
Mais parce qu'on oublie ça souvent, il y a aussi des choix politiques qui sont là, il y a des décisions qui ont été prises. Donc une guerre, ça coûte des milliards, des milliards ont été dépensés, j'oserais pas dire investis, hein, mais ça a coûté dans les premiers jours, rien qu'aux États-Unis, 2 milliards de dollars par jour. Donc ça a des conséquences, mais ce sont aussi évidemment les résultats de choix politiques, et ce sont des chiffres très très impressionnants et qui ont un impact après aussi sur la vie quotidienne. Par rapport à ça, il y a 6 ou 7 millions de personnes dont la vie a été complètement perturbée, voire détruite. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, il y a des dizaines de milliers de déplacés, il y a des millions de déplacés, il y a des dizaines de milliers de blessés. Donc ce sont des chiffres qui augmentent tout le temps, et qui nous interpellent aussi en tant qu'acteurs. Je veux dire, 2 milliards de dollars partis en une journée, c'est l'équivalent du budget humanitaire de toute l'Union européenne sur une année. C'est 10 fois le budget humanitaire de l'État belge sur une année. Et ça, rien qu'en un jour, ça a été perdu. Donc ça nous impressionne, ça nous interpelle, et on a voulu montrer ça aussi. Attention, ce sont des choix qui ont des impacts sur des personnes, sur des familles là-bas.
Alors quand on parle du Moyen-Orient, dans l'actualité, on entend souvent des chiffres, vous venez de l'évoquer. Comment éviter finalement que les drames humains deviennent, disons, abstraits pour le public ?
Alors ça, c'est un gros travail, hein, qui nous incombe, qui incombe aussi bien sûr aux médias, c'est de montrer ces personnes. Et les images sont là, les témoignages sont là. On peut les recueillir sur place et ils nous arrivent par différents canaux, y compris dans les médias, y compris dans nos journaux. Nous les rencontrons, on entend nos collègues quotidiennement, nos collègues chez Caritas Liban, chez Caritas à Gaza, qui nous font remonter ces images, ces témoignages. Il y a aussi le témoignage des personnes qui, ici, sont venus jusqu'en Europe ou en Belgique pour chercher refuge, pour chercher asile, et qui ont aussi un témoignage à nous apporter. Donc voilà, mettons-nous à l'écoute aussi de ces voix-là.
Alors vous évoquez Gaza, le Liban, l'Iran. Quelle est aujourd'hui la situation des populations civiles dans ces régions? On l'imagine bien évidemment, mais si on peut avoir plus de détails.
Alors on est pour l'instant en Iran, au sud Liban, etc., dans un état de guerre. Donc ce qui domine, c'est le deuil. C'est la souffrance, le désarroi, on peut être perdu, on peut être déplacé, se retrouver à 100 km de chez soi, avoir tous ses biens qui ont été détruits, tous les biens d'une vie parfois. Il y a aussi la peur, il y a aussi la peur parce que ça ne semble pas s'arrêter. On entend les discours politiques là qui ne sont absolument pas clairs, et donc il y a cette incertitude, cette angoisse pour l'avenir, et ça il faut imaginer, donc les familles qui sont là, qui ont tout perdu, les enfants dont la scolarité est interrompue, des soins de santé qui sont interrompu aussi ou devenu inaccessible. Donc voilà la situation des populations civiles, avec en même temps, heureusement, aussi autour d'elles, au milieu d'elles, de la solidarité qui se manifeste, et tout de même des aides qui arrivent et des aides qui s'organisent aussi localement.
Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une forme de fatigue ou disons d'habitude face à ces conflits qui durent pour certains depuis de nombreuses années?
Mais c'est vrai, oui, c'est incontestable même, et on doit j'allais dire, pas faire des choix de qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, oui, nos moyens sont limités, comme ceux de toutes les organisations, évidemment. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, par exemple, il y a cette crise d'Ebola en RDC. Oui. Il faut en parler aussi. Il y a cette crise interminable au Soudan, par exemple. On ne l'oublie pas, hein, nous sommes aussi actifs là-bas. Nous sommes aussi actifs en RDC. Médiatiquement, il faut parfois mettre un focus sur l'une ou sur l'autre. Mais c'est vrai que cette multiplication et cette prolongation des crises, comme vous dites, est un vrai défi, oui, pour nous tous.
Alors, dans tous ces théâtres d'opération, quelles sont aujourd'hui, disons, un peu les urgences humanitaires les plus critiques dans ces zones de guerre?
Alors, c'est clair que si on parle du Moyen-Orient, les urgences les plus critiques, elles sont à Gaza, certainement, où malgré un soi-disant cessez-le-feu, là, mais le conflit continue, les victimes continuent. Ça, c'est un compteur qui continue à augmenter, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a déjà près de 500 tués depuis ce soi-disant cessez-le-feu là, du mois d'octobre. Et à Gaza, la situation humanitaire est absolument épouvantable, mais vraiment absolument infernale, quoi. Dans le sud du Liban aussi, on a un niveau de destruction, y compris humain, mais aussi matériel, qui est vraiment très impressionnant. En Iran, c'est plus difficile à mesurer, plus difficile de témoigner aussi, parce que l'information n'est pas aussi facilement accessible. Nous n'oublions pas non plus la Cisjordanie. C'est pas un conflit ouvert, mais la colonisation, la violence aussi des colons appuyés par l'armée, et manifeste également tous les jours. Tout ça dans un contexte où souvent aussi les infrastructures de santé ont été prises pour cible, non pas seulement touchées, mais prises pour cible. Donc des hôpitaux qui ont été détruits au sud Liban, des hôpitaux qui sont fermés, qui sont inaccessibles. À Gaza, on en a déjà parlé. Donc voilà, pour nous, ces crises, au point de vue humanitaire, c'est là que les besoins les plus critiques sont évidemment les plus... très très clair pour nous.
Oui. Alors justement, la transition est toute faite pour parler un petit peu du travail de Caritas sur place. Comment vos équipes travaillent justement malgré l'insécurité et les tensions permanentes ?
Alors ce sont des équipes qui sont évidemment locales, oui, au Liban. C'est Caritas Liban qui travaille en Palestine, c'est Caritas Palestine qui travaille à Gaza. Ils sont là depuis le début, 125 collègues. Ils ont une très longue expérience, ils sont sur place, ils sont organisés depuis parfois 50 ans, parfois 60 ans, avec un grand professionnalisme, un engagement au sein de leur propre communauté. Ils font partie de la communauté, ils sont eux-mêmes victimes et affectés par le conflit. Et ils apportent une assistance sur des besoins, pour l'instant, primaires. Dans un contexte comme ça, c'est le plus important, de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins médicaux. Ils ont cette expertise également. Donc voilà, pour l'instant, comment ça s'exprime dans un tout premier temps, dans ces temps d'urgence première.
Oui, alors vous avez fait tout à l'heure allusion aux déplacés, et au-delà de cette aide d'urgence, comment on accompagne ces familles déplacées pour essayer de reconstruire un quotidien ?
Alors il y a une autre dimension, et c'est un des secteurs importants aussi dans la réponse de nos collègues sur place, c'est l'appui psychosocial, on appelle ça. Donc des soins post-traumatiques, en fait, pour des personnes, ou pour des enfants parfois, ou souvent d'ailleurs en particulier, qui ont été profondément affectés par ce dont ils ont été témoins, la destruction de leur maison, la mort de proches, parfois sous leurs yeux. Donc cette assistance psychologique, on estime qu'elle est vraiment essentielle pour permettre à des personnes simplement de se relever, de se redresser, et puis de regarder l'avenir un peu différemment. Ensuite viendront des aides peut-être plus ciblées pour certaines familles, pour reprendre une activité économique, pour réparer ce qui est réparable s'ils ont encore un logement plus ou moins accessible, éventuellement de reconstruire. Bon, nos moyens sont évidemment limités pour ça, hein, mais oui, essayer de trouver les possibilités de redressement, comme on va appeler ça, de relèvement, y compris économique, pour aider ces familles dans du plus long terme, parce que les besoins vont rester immenses pour très longtemps.
Alors, vous insistez aussi sur... je cite encore, une humanité qui résiste. Alors, malgré les crises, qu'est-ce qui vous donne, quelque part, encore l'espoir sur le terrain ?
Écoutez, l'espoir sur le terrain, l'espoir aussi pour nous, et ce qui nous nourrit, c'est d'être témoins de cette solidarité, de cet engagement local, permanent, dans un contexte non seulement difficile, mais même extrêmement dangereux. Au sud du Liban, il est dangereux de travailler à Gaza, il est extrêmement dangereux de travailler, et pourtant ils sont là, ils continuent à y croire. Donc oui, ce sont des signes d'espoir, d'encouragement, qui pour nous sont essentiels, et on essaye de transmettre aussi cette image-là ici, pour dire oui, non, c'est possible, il ne faut pas perdre l'espoir, et il est encore possible de faire quelque chose, et ça répond à une vraie attente, et créer de l'espoir, c'est vraiment le pour nous essentiel.
Alors on revient à Bruxelles, si vous voulez bien, Sébastien Deschamps, pour reparler de cette pompe à essence symbolique sur la place Pollard. cette installation a quelque part interpellé les passants à Bruxelles. Quel type de réaction vous recevez aujourd'hui sur cette action finalement ?
Écoutez, la première étape, c'était certainement une curiosité. Bon, une pompe à essence, là, place Poulard, c'est déjà inhabituel, mais aux couleurs de Caritas International. Donc cette curiosité. Et un premier regard en général très positif et très encouragement. Mmh. Mais écoutez, oui, vous nous interpellez là avec ce compteur, parce qu'il y a le compteur de l'essence, mais il y a le compteur avec le nombre de personnes affectées qui affichait là 6,5 millions. Et puis bon, on ne l'a pas fait bouger tout le temps, mais parce que ce sont des chiffres très difficiles à mesurer. Mais c'est pas souvent ou c'est quasiment jamais qu'on nous parle de ça et que vous nous mettez face à face avec cette réalité, cet autre angle, cet autre regard. Et ils disent c'est bien, ça nous ouvre un peu les yeux sur un autre angle de ce conflit dont on entend sinon parler tout le temps, sous cet aspect économique, le prix de l'essence, du carburant, etc. Donc des encouragements, des remerciements.
Est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens veulent aider mais ne savent pas toujours comment agir concrètement ?
Écoutez, ce que nous voyons, c'est que des citoyens veulent aider, oui, certainement, qui s'adressent à nous pour aider, et c'est très bien. Je pense que les occasions ne manquent pas, et les gens le savent quand même, les possibilités ne manquent pas de se montrer solidaire, que ce soit ici, que ce soit dans son quartier, que ce soit plus loin, à travers des organisations comme la nôtre ou d'autres. Je pense que c'est tout de même une information qui est accessible. Alors parfois il y a un sentiment un peu de découragement en disant encore une crise, nos moyens sont limités, c'est vrai. Mais je pense que les occasions sont là, les opportunités existent et que la solidarité elle peut vraiment se jouer aussi localement par rapport à des personnes autour de nous. En ces jours de partage, là je pense que tout le monde le sait, tout le monde en mesure l'importance. Pour les personnes qui viennent de loin, qui cherchent abri ici aussi, il y a moyen de faire des choses. Et y compris là-bas, on peut vraiment faire des choses avec les intermédiaires, comme Caritas par exemple.
Oui, donc des gestes de solidarité depuis chez nous qui peuvent avoir réellement un impact sur les populations touchées par les guerres et les zones de conflit.
Oui, ça a un impact. C'est un impact, et moi je dirais ça a deux types en fait d'impact. Le premier, c'est que ça a un impact symbolique très réel. Hein, il nous le témoigne, il nous le renvoie sur nos collègues et sur les personnes auxquelles ils viennent en aide là-bas. Le fait de ne pas se sentir oublié, c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'on peut se sentir. Je vous ai parlé de cette peur, de ce désespoir, de cette angoisse quand on est là au milieu d'un conflit, etc. Mais sentir qu'on n'est pas oublié et qu'il y a un canal, une chaîne là, de solidarité qui traverse, là, pour le coup, les frontières, c'est important. Et puis après, sinon, au niveau très pratique, oui, ça fait une différence. Ces gestes de solidarité, même modestes, ça permet. Rien que les deux dernières semaines, nos collègues là, ont servi 250 000 repas chauds au sud du Liban, enfin dans l'ensemble du Liban pour les déplacés. À Gaza, sur le dernier trimestre, ils ont réalisé 16 000 consultations médicales. Et bon, ça coûte. Oui, ça coûte pas mal d'argent. Ça coûte beaucoup moins cher que faire la guerre. On a besoin de moyens pour ça. Mais ça fait une réelle différence, très, très concrète.
Une dernière question avant de nous quitter. Si vous aviez un message à faire passer aux auditrices et aux auditeurs, quel serait justement ce message ?
Merci pour cette question-là. Ouais. Mais si on veut résumer tout ça, dire que la guerre, c'est un coup monstrueux, d'une part, un coup monstrueux, et c'est un potentiel destructeur de l'humanité. Alors qu'en face, on peut prendre la solidarité, ici, entre proches, et aussi avec les prochains plus lointains, ça a un coût moindre, et ça fait grandir l'humanité.
Voilà, ça fait grandir l'humanité. La conclusion de Sébastien Deschamps. Je rappelle que vous êtes coordinateur humanitaire chez Caritas. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info. À tout de suite.